prions. Tu es digne de notre vie, de nos vies, de toute notre attention, Tu es source de joie pour nous et d'espérance pour nos propres vies, pour le monde. Aide-nous à vivre nos vies avec toi, à te suivre, Seigneur Jésus. Amen. Si je reste ici, ça vous va là? Je suis habitué. Ok, ce que j'aimerais faire dans cette première session, c'est vraiment d'établir une base biblique pour notre façon de saisir le thème. Enfin, peut-être pour commencer, il faut parler du monde. Hein? On dit dans le monde, mais pas du monde. Mais c'est quoi le monde? Qu'est-ce que c'est? Et la réponse, enfin, il y a quand même peut-être une double réponse. Le monde, dans un premier temps, dans la Bible, c'est quoi? C'est comment? Quand on parle du monde, on parle de quoi dans la Bible? Pardon? Ok, donc la réponse c'était les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce une description du monde? Est-ce que c'est un monde qu'on trouve dans la Bible? Les gens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. Oui, ok, on s'entend. Est-ce que c'est la seule façon de comprendre le monde dans la Bible? Ok. Oui, c'est dans la Bible, ça, le monde, tour du monde en 80. Mais, enfin, le monde comme la terre, comme le contexte dans lequel nous vivons. Donc, le monde est merveilleux, le monde est glorieux. Le monde, c'est la situation humaine, pas juste dans la rupture, mais tout simplement dans le don que Dieu nous donne d'un lieu qui reflète sa gloire. Donc nous vivons dans le monde dans les deux sens. Et peut-être que, je suis pas sûr, mais dans le monde, on vit pleinement là l'expérience humaine. N'est-ce pas? On est à 100% humain et présent dans ce que Dieu a créé. On va en parler tout à l'heure. Et nous ne sommes pas du monde, c'est-à-dire une façon de vivre qui rejette la présence de Dieu, qui rejette ses voies, qui ne veut pas de lui, qui vit comme si Dieu n'existait pas, qui préfère même l'idée que Dieu ne soit pas là. Dans le monde, pleinement présent, véritablement humain, mais pas, ne vivons plus dans cette attitude qui rejette, qui ne veut pas de Dieu. Ok, si on peut, on va aller voir quelques textes bibliques qui nous aident à voir que le thème dans le monde mais pas du monde est là presque depuis le début, presque depuis le début. J'ose, pas au début. C'est-à-dire que au début, il y a juste dans le monde. Genèse 1, 28, Dieu les bénit en leur disant, ayez des enfants, Devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Le monde, présent dans le monde, avec une bénédiction, avec une vocation, avec quelque chose à faire, vivre comme à l'image de Dieu, représenter ce que c'est de lui appartenir dans ce monde qu'il a créé. Pour moi, c'est intéressant de voir que il y a une note, peut-être quelques-uns parmi vous, vous connaissez la Bible du Semeur, la Bible d'études, là. Il y a une note en Genèse, là, qui dit, qui parle de nous, c'est-à-dire représentant et ambassadeur de Dieu sur la terre, la gérance de ce monde lui est confiée. La culture, la science et la technologie sont des expressions de cette souveraineté de l'homme, pour autant qu'elles n'aboutissent pas à la détérioration, dite pollution, à l'asservissement et à la destruction de la nature. La gérance de ce monde lui est confiée. Donc, quel appel, quelle invitation d'entrer dans cette expérience de la vie, de refléter la gloire de Dieu dans notre façon de vivre dans le monde. Dans le deuxième chapitre de Genèse, on parle du jardin. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Encore Henri Blocher qui écrit, en réfléchissant sur le texte, il dit « Le jardin bien cultivé sera comme un chant de louange au Dieu de l'ordre et de la vie. » Ben ok, pensez-y. Le jardin bien cultivé, c'est qui fait ça? C'est les gens, c'est nous. Le jardin bien cultivé sera comme un chant de louange au Dieu de l'ordre et de la vie. Il y a quelque chose à faire dans le jardin. Pourquoi? Ben c'est Dieu qui a créé le jardin, non? Donc, est-ce que le jardin, est-ce qu'il y avait un problème? Est-ce que c'est pas vraiment un bon jardin? Non, le jardin est correct, parfait. Mais Dieu nous place dans le jardin, non pas juste pour le protéger, comme pour mettre une clôture autour et dire, OK, on protège le jardin. Non, nous avons quelque chose à faire dans le jardin. On laisse sa marque. On est actif. On apporte de la créativité. On en prend soin. On fait quelque chose avec le jardin. Et c'est pas un problème. C'est une invitation à nous exprimer. Le jardin ne sera pas pareil après. Parce que Dieu nous invite à nous exprimer, à en prendre soin. Quelle dignité, quelle confiance que Dieu exprime envers nous. Quel privilège d'agir comme ceux et celles qui sont faits à l'image de Dieu et d'apporter notre marque dans le contexte de ce que Dieu a créé. Quelle dignité que Dieu donne à nos vies, à notre présence, à ce que nous pouvons faire. Il y a ici déjà une question aussi de responsabilité. Nous avons une charge. Nous avons la possibilité de nous exprimer, mais nous avons aussi une responsabilité. Si on reconnaît que le jardin, c'est Dieu qui nous, place là. C'est Dieu qui a créé ça. Donc nous voulons vivre cette responsabilité, nous voulons vivre cette expression-là en réponse à lui, dans l'amour, dans la foi. Alors déjà, il y a une réponse de notre part. On ne connaît pas beaucoup sur les points particuliers, comment ça s'est déroulé. Mais on a une vision ici en Genèse 2, encore, qui nous montre encore l'invitation de Dieu de vivre quelque chose qui est de l'ordre du service et de la créativité. Enfin, si on, de le mettre dans les mots très simples, le Dieu qui crée toute la terre nous invite à apporter notre contribution en réponse à lui, par sa grâce, déjà là. Il y a une attitude de service en réponse à ce que Dieu a fait. Nous allons faire un énorme saut, énorme saut. Jésus dit en Marc 10, « Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. » Jésus qui nous montre encore le modèle de ce que c'est d'être pleinement humain devant Dieu, rétabli, obéissant, n'est pas venu pour se faire servir, mais dans une attitude de service. Au début, c'était comme ça, n'est-ce pas? Dans le jardin, le service cultivé, prendre soin d'eux, par amour, par réponse à Dieu. Dans le monde, point. Mais après, il y a rupture. C'est difficile à comprendre. Le fait de se détourner de Dieu, au lieu d'être centré sur lui, lui qui nous donne la vie, lui qui nous aime, lui qui établit même notre identité et notre dignité. La préférence pour le fait de nous définir nous-mêmes, d'être centré non pas sur celui qui nous aime et nous a créés, mais sur nous-mêmes. Il y a rupture et le début de pas du monde. Dans le monde, mais pas du monde. Dans le monde, mais racheté. Alors, il y a un parcours de rédemption. Ça va? Il y a un parcours de rédemption qui s'introduit. C'est intéressant, on va faire un mini-saut, pas aussi loin que la dernière fois, mais juste avec l'appel d'Abraham. Ça va, là, on va aller jusqu'à Genèse 12. Enfin, Dieu appelle Abraham. Il l'invite à se confier en lui dans le but de découvrir ce que c'est de connaître ce Dieu-là. Et Abraham deviendra alors une bénédiction pour tout le monde. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. » Donc, Dieu appelle Abraham. Il est dans le monde. Il invite à entrer dans une expérience de pas du monde, de vivre la vie vraiment avec lui, de découvrir ce que c'est de vivre sa vie avec Dieu. Et il dit, en le vivant, je vais faire de toi une source de bénédiction pour d'autres. Et même, il dit, pour toutes les nations. Mais comme on sait, l'appel dans la vie d'Abraham et ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu, Israël, par la suite, n'était que partiellement bénédiction pour les nations. Pourquoi? Ben, les limites de la fidélité et de la réponse des gens que Dieu appelait, croyant que l'appel n'était pas vraiment un appel à servir, mais un privilège. Dieu nous aime plus que les autres. Nous sommes meilleurs que les autres. Parce que Dieu est là, c'est sûr que, même si nous ne sommes pas fidèles, nous sommes encore son peuple, il va prendre soin de nous. De virer l'appel au service et à la bénédiction en compréhension de privilèges, centré sur nous-mêmes. Mais le parcours de rédemption continue et se réalise pleinement en Jésus-Christ. Et c'est là où on peut parler du texte qui devient l'ancrage pour le thème Jean 17. Où on parle de ce que c'est d'être encore dans le monde et que le désir de Dieu que nous soyons dans le monde, mais pas du monde. Alors Jésus commence dans ce chapitre, il parle de connaître Dieu. Il dit, c'est quoi connaître Dieu? Enfin, non, il parle de la vie éternelle. La vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Alors il dit, nous sommes dans le monde, mais qu'est-ce que c'est vraiment vivre? Qu'est-ce que c'est de ne pas être du monde? Et la réponse, c'est d'être dans le monde et de connaître Dieu. C'est d'être dans le monde et de vivre en relation avec Dieu. Dans le monde, mais pas du monde. Un peu plus tard dans le chapitre, Jésus dit, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Dit, la réponse n'est pas, comme on l'a dit, c'est pas la séparation, c'est pas la distance, c'est un changement, c'est une transformation dans nos vies. Jésus dit, je veux qu'il soit présent dans le monde. Je ne veux pas que ça change, mais il faut qu'il soit différent. Il faut qu'il vive dans le monde d'une autre manière. Il dit, fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité. Dans le monde, mais entièrement à Dieu, par le moyen de la vérité. Encore, on a parlé, même dans le cas du rapport de Jésus avec la femme qui était là, dans la maison de Simon, il parle de la vérité. Il dit, tes fautes qui sont nombreuses sont pardonnées. Dieu veut qu'on vive en relation avec lui, et que la vérité nous renouvelle afin qu'on puisse vivre dans le monde, mais pas du monde. Et même Jésus dit un peu plus tard dans le chapitre, je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Si jamais on hésite là, si jamais on est comme, ben peut-être Dieu ne nous veut pas vraiment présent dans le monde. Peut-être que ce que Dieu veut pour nous, c'est vraiment idéalement là, c'est qu'on vive à part, on se protège. Mais ce verset, cette expression de Jésus dans la prière est tellement claire que c'est quasiment déconcertant. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Alors, si on résume, Par rapport à ce qui se passe dans Jean 17, Jésus, en parlant de lui-même, il parle de comment il est venu dans le monde pour accomplir la volonté de Dieu. Il dit que je me suis mis à part. Un mot plus spirituel pour ça. Pouvez-vous m'aider là? Sanctifié, oui, c'est bon. Oui, je me suis sanctifié. Parce que Jésus s'est sanctifié, nous sommes sanctifiés. Jésus dit, je me suis mis à part, j'ai consacré ma vie à toi, Père, j'ai donné ma vie sur la croix afin que eux vivent aussi ce que c'est d'être mis à part pour Et ça continue, et afin de les envoyer, nous sommes mis à part et envoyés dans le monde. Alors, encore si on revient au texte qu'on a regardé tout à l'heure, Luc 7, une femme qui vit dans le monde et elle est du monde, rencontre Jésus qui s'est mis à part pour elle afin qu'elle aussi soit mise à part pour Dieu toute sa vie, peu importe son arrière-plan. Et quand lui, il lui exprime son pardon, il dit, tu peux partir en paix. Aller où? Dans un... Oui, voilà, cloîtré. À partir de ce jour-là, ils l'ont accompagné jusqu'à la porte, là, quelqu'un l'a rencontré. Il disait, OK, tout va bien là. On va t'amener jusqu'à la communauté, là, où tu peux passer ta vie. Mais non. Jésus dit, tu peux partir en paix. Tu vas vivre ta vie comme quelqu'un qui est pardonné, quelqu'un qui devient encore présent dans le monde, mais pas du monde. Alors, c'est ça. Je voulais établir un cadre biblique. C'était vraiment le but de cette première session. Je sais, j'ai aucune idée où on est par rapport au temps. Dans 10 minutes? OK. OK. Alors, comme on a du temps, ça vous va là? On a un peu de temps. Est-ce qu'on peut se parler? Donc, question. Addition, correction, oui. OK, excellente question. Et je vais me contrôler. Mais c'est ça la question, non? Comment tu dis équilibré? Je suis mal à l'aise avec ce mot-là. Comment je dirais plutôt? Parce que parfois ce que Jésus nous dit, c'est pas très équilibré. Si on cherche l'équilibre, on est mieux de ne pas suivre Jésus. Mais si comment vivre vraiment ce que c'est d'être dans le monde mais pas du monde? Là, je dirais OK. Parce que si on dit que le fait d'être présent dans le monde représente déjà un compromis de ce que c'est d'être avec Dieu, mais on va regarder quand on va passer au fait de regarder le modèle de Jésus, c'est fascinant, mais c'est pas tout à fait ce qu'on veut voir. C'est un modèle qui, encore qui nous laisse un peu, OK, est-ce qu'on peut vraiment vivre ça? Est-ce qu'on peut vivre ça comme lui, il a vécu? Mais là, parce que nous, on a toutes sortes de façons d'essayer justement de trouver un équilibre entre les deux. Chez Jésus, il n'y a pas vraiment d'équilibre. Oui, il y a une autre sorte d'expérience. Oui, Ruben. OK. OK. Comment vivre dans le monde sans se sentir coupable? Je vous relance et pensez-vous. Je sais que la question elle est évidente là, mais il faut quasiment le dire. Est-ce que Jésus s'est senti coupable de vivre pleinement dans le monde? OK. On s'entend? Jésus ne s'est pas senti coupable. Même s'il est très présent, parfois étonnamment présent dans le monde. Mais le mouvement dans la vie de Jésus, on voit les deux. On voit une relation qui est très authentique et intense avec Dieu. Et parfois, on le voit en situation que ses propres disciples disent, « Mais là, qu'est-ce que tu fais là? Comment? Comment tu es dans le monde comme ça? Tu ne te constates pas? Comment ça peut paraître? Ce que tu es en train de faire maintenant. » Donc, merci, c'est génial comme question. Oui, il y avait une autre, oui. OK, merci beaucoup. Donc, il y a un mouvement un peu plus tard dans notre parcours ensemble, nous allons aborder ce texte-là qui parle de « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière en Matthieu ». Là, on va parler de ça. Donc, mais le mouvement, là, c'est l'influence va du peuple de Dieu vers le monde. Hein? C'est ça. Oui. Est-ce que le fait d'avoir des principes, est-ce que ça aide? OK, comme par exemple. OK. Ah, OK. Alors, quel rôle jouent les principes dans le fait d'être capable d'être dans le monde, mais pas du monde? Et je pense que nous, on a tendance à croire que, oui, la réponse est là. Et je ne veux pas dire, et là, on va se parler au cours de la fin de semaine. Moi, je vais pousser dans la direction que les principes ne sont pas suffisants. Que les principes ne peuvent pas en eux-mêmes nous aider ou nous amener à vivre dans le monde, mais pas du monde, à la manière de Jésus, j'ajoute. Donc, il y a une façon de vivre dans le monde, mais pas du monde, selon les principes. Mais je ne suis pas convaincu que c'est comme ça que Jésus a vécu l'expérience comme modèle. Oui. Exactement. Il y a une tension ici. Parce que si on dit « mis à part pour Dieu », ça c'est une façon de le dire, hein? « Mis à part pour Dieu dans le monde ». OK? Mais, ou bien « mis à part du monde pour Dieu ». OK. Et dépendant de où on met l'accent, là, mais moi, je vais encore, je vais mettre l'accent, je me déclare, là. Je vais mettre l'accent sur le fait de mise à part pour Dieu dans le monde. Ce qui fait de nous des gens qui ne sont pas du monde. Mais on pourrait me dire, David, tu n'es pas du monde. Mais ça, c'est une autre façon de parler de ma personnalité, peut-être, ou de, alors, mais merci d'avoir, oui. Pardon? OK, d'accord. OK, principe, discipline de vie, je suis d'accord. Et peut-être vous allez encore, vous allez dire, mais David, il me semble que tu n'es pas assez fort sur le côté discipline. OK, on peut parler de comment on vit, OK? Moi je suis, tu sais, vous parlez de comment je vis ça, OK? Mais je vais encore, si nous regardons le modèle de Jésus, il y a quelque chose ici de vivifiant, de radical, de dynamique. En Jean 17, là j'ai oublié parce que je l'avais pas marqué dans mes notes. Okay. Une chose que Jésus dit, c'est que il dit, il veut que ses disciples connaissent la joie de la joie. Dans Jean 17, dans le même chapitre, où le thème c'est « dans le monde, mais pas du monde », il dit « je veux que vous viviez ça dans la joie ». Est-ce possible? Est-ce possible? OK, vous dites « oui, c'est bon ça ». Okay. OK. Moi aussi je le crois, mais c'est un problème. C'est un problème. Parce que dans ce que nous communiquons, dans nos vies, par rapport à ce que c'est d'être dans le monde, mais pas du monde, la joie n'est pas la première qualité qui ressort. Okay? Et la question, il faut se poser cette question-là. Comment je vis cette expérience-là? Est-ce qu'il y a de la joie dans ma façon de vivre ça? Ou bien, est-ce que je vis comme si... S'il n'y avait pas de principe, s'il n'y avait pas de discipline, de préférence, je pense que la joie se trouve dans le monde. Là, je suis à quelque part dans ma vie. Est-ce que ce que je communique, c'est que je me donne à Dieu? Mais la bonne vie, la joie, ne se trouve pas là. Est-ce que je communique ça? Parce que la personne peut honnêtement me poser la question, tu parles d'une bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ta vie est vraiment animée par la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une joie dans ce que nous sommes en train de vivre avec Dieu? Enfin, je pose la question, elle rebondit comme ça, paf, tu sais. OK, mais excellent. Ce qu'on va faire dans la prochaine session, c'est que on va justement nous focaliser sur Jésus. Voilà, c'est ça. Puis à la fin de l'autre session aussi, on va se parler. Parce que, ah, très bien. Alors, on peut faire une pause maintenant. Oh oui, non, tu voulais? Oui. Oui. OK, bref, est-ce qu'on peut prendre le jardin comme une image pour la terre? Oui, est-ce que, donc, OK, Donc, on devient, qu'est-ce que nous faisons? Dans le fond, le jardin devient image pour la vie aujourd'hui, pour la terre. Même, on peut parler d'écologie, on peut parler de politique, on peut parler d'art, on peut, c'est, le jardin englobe tout ça. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je fais dans le jardin pour Dieu, avec Dieu, à cause de Dieu? C'est quoi mon apport dans le jardin? OK? Je sais pas, mais c'est assez ouvert, je crois, que le jardin devient figure pour toute la vie.